Se reposer avec Jésus, c'est ce que Étienne nous a proposé ce matin, et puis on va continuer dans ce sens-là. On revient sur la lecture de Marc 6, il nous a dit de le méditer aujourd'hui, hein, c'est ça. Donc nous allons méditer ce passage, enfin en partie. Versets 7 à 13, voilà comment tout ça a commencé. Alors Jésus appela les 12 et se mit à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur commanda de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, mais ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Il leur disait, « Chaussez-vous de sandales et ne revêtez pas deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si, quelque part, les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et puis plus tard, versets 30 et 31, les apôtres donc se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, « Venez à l'écart !» Et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient, ils n'avaient pas même le temps de manger. Voilà, Jésus leur dit, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Cette année, tout est complet, paraît-il, hein, dans les campings, dans les hôtels, enfin, je ne suis pas allé vérifier, mais c'est ce qu'on entend aux informations. Les Français ont besoin de se détendre, de penser à autre chose, de changer d'air. Les Français ont besoin de repos. Surtout après une année difficile, particulière et certainement angoissante, on aspire à un repos bien mérité. Alors, Étienne nous a parlé de celui qui s'est reposé en premier. C'est Dieu. Hein, dans Genèse chapitre 2, est-ce qu'on peut parler d'un repos bien mérité? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le premier repos dont il est mentionné dans la Bible. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Alors pourquoi Dieu s'est-il reposé? Était-il fatigué au point de chercher du repos? Il est vrai que Dieu lui-même s'est reposé après avoir terminé son travail de création. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait plus rien et que ce monde est laissé à lui-même. Jésus dira en Jean 5, 17, « Mon Père agit continuellement. » Donc Dieu travaille. Alors le repos de Dieu, ce n'est pas l'absence de son travail, c'est l'achèvement de toute nouvelle création. Donc, il n'y a rien de nouveau, une nouvelle création qui va voir le jour. Et le verset 3 de Genèse 2 dit, « Dieu bénit ce septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. » Comme pour bien nous marteler cette idée. En revanche, pour les disciples, après leur tournée missionnaire, eh bien, ils méritaient du repos. Hein, parce qu'une campagne d'évangélisation, ce n'est pas du tout reposant. Ils ont dû parcourir de longues distances à pied, faire face plus ou moins à un confort acceptable, emporter le strict minimum. Au verset 8, Jésus leur recommanda de ne rien prendre pour la route, ni bâton, ni carte bancaire, ni monnaie, etc. Voilà. Seulement un bâton. Ah, seulement un bâton. Ça peut servir un bâton. Hein. Oui. Et même sans l'assurance d'être bien reçu, hein, puisqu'il dit au verset 10, dans quelque maison que vous entriez, eh bien, que demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si, quelque part, les gens ne vous reçoivent pas ou ne vous écoutent pas, eh bien, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ce fut certainement une tournée bien épuisante, même si Jésus leur avait donné le pouvoir sur tout esprit. Alors, évidemment qu'ils vont prêcher la repentance, ils vont chasser des démons, ils vont guérir des malades. Ils sont revenus enthousiastes et joyeux et certainement fatigués. avec ce seul désir de se retrouver entre eux. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein, beaucoup de choses, on a juste le désir de se retrouver en petit comité. Alors, pour faire une réunion de bilan ou retour d'expérience, j'en sais rien, en tout cas, ils avaient envie de parler. Hein. Verset 30, les apôtres se rassemblèrent près de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et c'est là que Jésus va leur proposer, eh bien, l'idée d'un repos bien mérité. Venez à l'écart. Étienne nous l'a dit, hein, ils ont pris la barque et puis pour s'en aller à l'écart dans un lieu désert. Voilà, ils avaient loué là, Airbnb, etc. C'est super. Hein. Ils vont pouvoir enfin avoir un temps d'intimité, se reposer un peu, faire le break, vivre hors du quotidien. Hein. Mais il est arrivé un imprévu. Et comme tous les imprévus, hein, comme son nom l'indique, c'est toujours au mauvais moment. Vous avez préparé votre journée, vous avez préparé vos projets et quelqu'un vient. Hein. Ça me rappelle une fois quand j'étais jeune, adolescent, mon père nous a dit, on va aller à la mer dimanche prochain. Ah, on était super contents, tout était préparé. Et puis, dans la semaine, on reçoit un coup de téléphone de personnes nous disant qu'ils allaient venir nous rendre visite ce dimanche en question. Bon, vous savez, nous, on ne dit pas non, donc on annule notre projet. Hein, et puis, voilà qu'on est triste parce qu'on est resté bloqué à la maison et personne, allait venir. Des gens qu'on connaissait à peine. Et puis, samedi soir, nous recevons un coup de téléphone nous précisant que la belle-mère était décédée. Quelle joie pour nous. J'avoue, ce n'était pas très sympa. Mais c'était une libération d'aller enfin pouvoir aller à la mer. Bon, nous, mon frère et moi, hein, c'est pas mes parents. Voilà. Donc, il est dit qu'ils étaient dans une maison où il y avait beaucoup d'allers-retours. Hein. À Capernaum, alors l'archéologie a découvert un lieu qu'elle précise avec une grande véracité. C'était le lieu où demeuraient Jésus et les disciples. Donc, étant donné qu'il y avait beaucoup de monde, la seule manière d'être en repos, c'est de partir. La seule manière d'être en repos, c'est de... Vous avez besoin de vacances. Hein. Ah oui, non, c'est un choc, oui, j'avoue. Non, pas que... Ouais. Alors, une question, Jésus leur propose de partir et puis plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent et 15 000 personnes au plus, et plus, je pense qu'il y avait plus, hein, eh bien, on suivit hein, nos voyageurs qui voulaient se reposer. Et quand il sortit de la barque, au verset 34, Jésus vit une grande foule et une compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il se mit à les enseigner longuement. Alors, une question. Jésus savait-il ce qui allait se passer? La réponse, plutôt oui. Hein. Si oui, pourquoi leur a-t-il fait cette promesse de se reposer? Alors, Étienne l'a dit un peu. Je suis pas d'accord, hein. Ou on se repose, ou on se repose pas. Enfin, ils n'ont même pas eu le temps de se reposer si ce n'est dans la barque, si on comprend bien. Hein. Jésus a-t-il changé d'avis en cours de route? On a l'impression, vraiment l'impression, que les disciples ont suivi cette journée au point de voir l'heure du dîner comme une délivrance. Tu sais, comme le prof vous interroge, ou le maître, et puis d'un coup, il y a la sonnerie de la récréation ou de fin de cours. Alléluia! Hein? C'est un peu comme ça. Verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, c'est un lieu désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les. Enfin, débarrasse-nous-en, quoi, hein? Un peu. Qu'ils aillent dans les campagnes et les villages, hein? Et des environs pour s'acheter de quoi manger. On va enfin pouvoir être en repos. En fait, le repos promis semble se transformer en heure supplémentaire. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Nous, on est là pour se reposer. Non, donnez-leur vous-même à manger. Et pas qu'un peu, parce qu'il y en avait pas mal. Mais lui dire, argument, irons-nous acheter du pain pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Certainement, leur déception était grande, mais même si rien ne nous est dit sur les disciples. Alors, mon frère, ma sœur, il y a une dimension physique au repos. Et c'est important. Hein? Sinon, les conséquences néfastes vont se faire ressentir sur notre santé. Mais il y a aussi une dimension spirituelle du repos. En fait, le Seigneur va leur faire découvrir ce que veut dire le vrai repos avec lui. Il ne va pas les entraîner sur le chemin du burn-out où il faut faire et faire et faire sans jamais s'arrêter parce qu'on est plus spirituel que les autres. La Bible présente le repos comme un don de Dieu, une grâce, une restauration pour le corps, mais aussi une restauration pour l'âme. Lorsque il a été inscrit dans la Constitution divine, hein, les 10 commandements à l'article 4, souviens-toi, hein, Exode 20, verset 8, du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et le 7e, et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. C'est quand même quelque chose, hein? Voici un commandement positif. Ce que Dieu voulait, c'est le bien du peuple. Et le but de Jésus n'était pas de désorienter ses disciples, mais bien de leur faire découvrir le secret du vrai repos. Malgré les apparences, en réalité, Jésus va tenir cette promesse. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin, il existe le repos de la vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle. Je ne sais pas si tu as expérimenté ce repos que Jésus seul donne. Parfois, nous avons n'avons pas de véritable repos parce que nous essayons, par des efforts laborieux, de gagner les faveurs de Dieu. As-tu eu déjà ou as-tu ce repos que Jésus promet? Sinon, je t'encourage à faire aujourd'hui ce pas en reconnaissant tes péchés et l'incapacité que nous avons à plaire à Dieu. Dieu s'est chargé de ce repos. Par Jésus, Dieu nous donne la possibilité d'avoir ce repos quant à l'assurance du salut. Et Jésus leur avait déjà donné ce repos, essentiel et urgent, à tous, excepté Judas qui a rejeté cette offre. Mais ici, Jésus veut leur donner une conception du repos dont ils avaient besoin. Que leur manquait-il pour être dans le repos? Rappelez-vous, les 12 étaient partis en faisant des miracles. Des dons de guérison qu'ils avaient pratiqués, ils avaient apporté des prédications basées sur la repentance. Ils avaient chassé des démons. Peut-être pensaient-ils qu'ils savaient déjà tout. En réalité, les disciples devaient d'abord se ressourcer au contact de leur maître pour vivre le repos. Verset 30, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent auprès de Jésus et ils racontent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Que leur manquait-il? Ils avaient enseigné, mais il leur manquait le besoin d'être enseigné. Et le repos commence aussi par là. Vous savez, il y a un danger qui nous guette tous. Se croire assez fort, assez instruit, assez nourri pour partir en vacances en freestyle. Hein? Oui, dans la vie spirituelle, on doit toujours rester enseignable. Même les professeurs des plus grandes universités bibliques doivent se souvenir qu'ils sont en formation continue. Avons-nous suffisamment faim et soif de la parole de Dieu ou considérons-nous nos acquis suffisants pour passer un temps de vacances, même de vacances avec Dieu? Ici, la foule, en fait, avait un cœur beaucoup mieux disposé que celui des apôtres. Ils voulaient entendre Jésus parler. Verset 34, d'ailleurs, il est écrit, à peine sont-ils sortis de la barque, eh bien, que Jésus, en ayant compassion d'eux, eh bien, il se mit à les enseigner longuement. Longuement. Si le repos physique permet de reprendre des forces physiques, n'avons-nous pas aussi expérimenté qu'en pleine activité, les bienfaits de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, eh bien, a renouvelé bien plus d'une fois nos forces. Êtes-vous d'accord avec cela? Pouvons-nous en témoigner? Combien de fois je me suis senti, ou peut-être vous vous êtes senti, fatigué, accablé, écrasé, épuisé, et pourtant restauré par l'expérience d'un repos surnaturel. Vous vous souvenez de l'épisode où Saül était parti en guerre contre les Philistins, et il avait fait un serment, un stupide serment, que les Israélites ne devaient rien manger jusqu'au soir, à prendre aucune nourriture jusqu'à ce qu'ils aient vaincu les Philistins. 1 Samuel 14, 26, 27 dit ceci. Lorsque le peuple arriva dans la forêt, il vit que le miel coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment de Saül. Jonathan, le fils de Saül, qui n'avait pas entendu que son père avait fait prêter serment au peuple, avança son bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel, le ramena à sa bouche, et ses yeux furent éclaircis. Le psaume 119, verset 103, nous dit que tes promesses sont douces à mon palais plus que le miel à ma bouche. Et le proverbe 24, verset 13, mon fils, mange du miel car il est bon, un rayon de miel est doux à ton palais. Nous avons besoin continuellement de ce miel de la parole de Dieu. Nous avons besoin, mon frère, ma sœur, d'être enseignés. Il est arrivé que notre journée s'est présentée comme une journée peut-être de repos, sans rien de particulier. Nous voilà, bien dans cette journée, et bien passer à côté de l'essentiel qui peut renouveler nos forces. Tout simplement parce que nous avons négligé le ressourcement avec le Seigneur. Comment allons-nous nous reposer durant cet été? Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'avons-nous prévu? Sieste? Balade, lecture d'un livre, prendre le soleil, un repas entre amis, tout cela c'est bien. C'est une bonne chose que de ralentir son rythme. Mais attention au repos égoïste, où l'être charnel est en dilettante, suivant l'impulsion de son propre désir et délaissant l'état spirituel. Quoi qu'il en soit, ne confondons pas, nous, chrétiens en vacances, et vacances de notre christianisme. Ce que Jésus dit reste vrai. Va dans ta chambre, ferme la porte et là, rentre en communion avec ton Seigneur. Même si nous n'avons pas tous les mêmes charges en repos, hein, c'est vrai que les mamans sont toujours plus occupées. Hein. Certainement, les grands-parents aussi, ils n'ont peut-être pas tous les mêmes moyens et les mêmes possibilités. Alors, durant tes congés, cultive ta vie spirituelle. Reste enseignable, même si tes projets sont chamboulés. Les disciples devaient se ressourcer au contact de la parole de leur maître. Ça, c'est un premier point du repos. Le deuxième point, c'est que les disciples avaient besoin d'apprendre encore à faire confiance au maître. Ah là là. Que de terribles gâchis de nos bons moments quand viennent les inquiétudes et les soucis. Combien de jours de repos ont été pollués par nos inquiétudes et nos soucis? Il y en a quand même, hein? Nous sommes là, tranquilles, et notre esprit est ailleurs, tourmenté. Alors, Étienne a failli chanter « Vacances, j'oublie tout », mais je ne sais pas si c'est toujours vrai que pendant la période des vacances, on oublie toujours tout. Parfois, une bonne coupure avec son téléphone portable, ça fait du bien. Mais couper avec des pensées qui viennent nous obséder, ça c'est peut-être un peu plus difficile. Alors Jésus connaît nos besoins. Et pour saisir le repos du Seigneur, eh bien nous avons besoin, comme les disciples, d'apprendre à lui faire confiance. Et pour cela, Jésus va créer une situation particulière, une mise en situation. Verset 37, vous allez vous reposer. Alors, donnez-leur vous-même à manger. Ah, mais ils lui diront, où irons-nous acheter du pain pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Jésus leur répondit, combien avez-vous de pain? Allez voir, ils s'en informèrent et ils revinrent avec cette information cruciale. Pas grand-chose, 5 pains et 2 poissons. Hein? On va rien pouvoir faire avec ça. Eh bien, avec 5 pains et 2 poissons, bien sûr, Jésus a réussi à rassasier toute une foule et il en restait. Alors ce piège de l'inquiétude traduit notre manque de confiance en réalité. Ça a été un grand piège pour les enfants d'Israël dans le désert. Les 12 n'avaient-ils pas vu des miracles? Et bien plus que cela, ils ont fait des miracles. Ils ont chassé des démons parce que Jésus leur avait donné le pouvoir. En Hébreux 4, verset 2, eh bien, l'épître, donc l'auteur soulève cette question. La bonne nouvelle, dit-il, a été annoncée aussi bien à eux qu'à nous. Et que dit-il ? Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien à cause de l'endurcissement de leur cœur qui ne reçurent pas avec foi. Tu sais, les effets de la parole peuvent rester lettre morte si dans la vie, eh bien, ils ne sont pas pris avec confiance. Les promesses de Dieu restent, mais pour celui qui tombe dans l'incrédulité et désobéissance, eh bien, les effets en restent quelque chose de nul. Au lieu d'exposer leur requête, les enfants d'Israël, leur angoisse, leur peur et leur prière à Dieu, parce qu'envahis d'inquiétude, ils se sont tournés non pas vers lui, mais ils se sont tournés contre lui. Et ils ont fini par l'accuser. Nombre 14, ils diront même à Moïse, pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait rentrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Voilà que l'inquiétude a créé la désobéissance et la désobéissance a créé l'incrédulité. Et l'incrédulité a un grand pouvoir destructeur, malheureusement. Alors, est-ce que Jésus a manqué à sa parole, répondant à l'urgence plutôt de cette foule plutôt qu'à l'urgence de ses disciples? En réalité, Jésus voulait les former sur le fait que le vrai repos consiste à lui faire confiance. Ne dira-t-il pas plus tard, « Quand vous ai-je envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils lui répondirent, « De rien. » Comme autrefois Dieu avait dit la même chose aux enfants d'Israël, par la bouche de Moïse, « Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans toute l'œuvre de tes mains. Il a connu la marche dans ce désert. Voilà 40 ans que l'Éternel ton Dieu est avec toi et tu n'as manqué. » Et tu n'en manquais de rien. Parfois, nos inquiétudes viennent troubler notre repos. Que dit David ? L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Connaissons-nous ce repos du cœur ? Malheureusement, il faut l'avouer, pas souvent ou peu. Alors, la troisième chose qui leur manquait, que Jésus voulait leur transmettre pour leur faire comprendre ce qu'est le repos, en fait, il leur manquait de découvrir davantage la personne du Seigneur lui-même. Nous avons déjà dit que les disciples avaient eu l'occasion de pratiquer des miracles, des guérisons, de chasser les démons. Et je rejoins cette interprétation qui dit qu'ils n'étaient finalement plus étonnés de voir des miracles. Ah, est-ce possible? Eh bien, songeons au peuple d'Israël en Égypte. Comptez le nombre de miracles que les Israélites ont connus à leur sortie d'Égypte et dans le désert. Alors, au moins plusieurs miracles quotidiens. La manne, voilà, la nuée de feu, etc., etc. Nous pouvons concevoir les œuvres miraculeuses de Dieu et elles peuvent devenir comme quelque chose de banal. Vous le croyez? Regardez ce que dit la Bible. Nombre 14, jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi, dit le Seigneur, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui. Ah, c'est donc possible de vivre des miracles et des miracles et de trouver ça presque normal, voire même un peu frustrant. Jean 12, verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. C'est quand même extraordinaire, hein? C'est-à-dire que nous pouvons voir de grandes choses et rester malgré tout déçus et découragés, alors que d'autres avec moins sont émerveillés de ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Je crois que les miracles ne sont pas une fin en soi. Si c'est le cas, ce serait triste et le christianisme serait vraiment triste. Pourquoi ? Parce qu'on mettrait Jésus au rang d'un génie seulement capable de réaliser nos vœux. Imaginez que demain, tous vos vœux se réalisent. Vous savez ce qui va arriver? Eh bien, vous allez être dans une situation constante de frustration et d'insatisfaction. Ce n'est pas parce que nous avons obtenu quelque chose que cela va nous satisfaire. Oui, un temps, mais après ce temps, on passe à autre chose. En revanche, je crois que les miracles doivent nous amener à ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire à considérer la personne de Jésus. La fin de l'histoire, Étienne nous en a parlé, de Marc 6. Qu'est-ce qui est arrivé sur ce lac de Kinéret, de Nézaret, de Galilée, etc., etc. Hein? Qu'est-il arrivé? Eh bien, une tempête est survenue. Ah! Et que voyons-nous? Jésus au repos. Ah, ça, c'est un comble, hein? Sur la montagne, alors que ses disciples devaient batailler contre la tempête. Et comment finissent les tempêtes? Alors, c'est bien, vous avez déjà des devoirs de vacances, hein? Vous allez étudier le lac de Galilée, hein? Et puis vous apporterez vos devoirs à Étienne, qui va vérifier. Mais regardez comment finissent ces tempêtes. Elles finissent quasiment toutes par une admiration de la personne de Jésus. Marc 4, Matthieu 8, plein d'admiration, les disciples qui passaient par la tempête se disaient « Quel est celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Marc 14, déclaration de Pierre, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et ici, au verset, à la fin du chapitre 6, « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Un repos, mon frère, ma sœur, réussi, c'est une découverte plus grande de la personne et de l'œuvre de Jésus. Une nouvelle révélation de lui. Alors, en conclusion, voilà le repos que Jésus a promis à ses disciples. A-t-il tenu promesse? Oui, il a tenu promesse. Et même au-delà, Éphésiens 3, 20 nous dit, « Aura celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. À lui soit la gloire, des siècles et des siècles et dans l'Église. » Alors le repos a été efficace. Pourquoi? Parce que nous les revoyons reprendre une vie active avec le Seigneur. Et croyez-moi, ce n'était pas de tout repos que d'être le disciple, hein, à cette époque, et même aujourd'hui. Pas toujours évident pour nous, hein, pour chacun de nous qui avons suivi Jésus. Nous pouvons donc connaître le vrai repos malgré une surcharge de travail ou un planning bousculé. Et durant ce temps de repos ou cette période, peut-être que nous avons encore besoin d'entendre ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 11 et qui a été rappelé. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai un peu, non pardon, je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » J'aimerais te laisser avec trois questions. Première question, quelle place vas-tu donner à Jésus pour qu'il s'occupe de ton repos? Quelle place? Deuxième question, comment vas-tu gérer les imprévus dans l'inquiétude ou la confiance dans le Seigneur? La troisième question, qu'auras-tu découvert après ton temps de repos sur la personne de Jésus et que tu pourras partager? La réponse que nous apporterons à ces questions démontreront si nous nous sommes reposés avec Jésus et selon le Seigneur. Bon repos.